France Culture.
L'économie est une discipline athée, l'économie est une discipline sans Dieu, l'économie est une discipline sans totalité, l'économie est une discipline qui commence à manifester non seulement l'inutilité, mais l'impossibilité d'un point de vue souverain, d'un point de vue du souverain, sur la totalité de l'État.
Une discipline sans Dieu et sans totalité et qui rend impossible, voire inutile, la vie du souverain. C'est ainsi que Michel Foucault définissait en 1979 l'économie. Ce lien essentiel entre économie et politique est le point de départ, mais aussi le point d'arrivée de toute une réflexion de l'économie sur elle-même au moyen d'autres disciplines. La philosophie, ici, avec Foucault. Ailleurs, ce sont les mathématiques, la physique, mais aussi la sociologie et l'histoire qui sont intégrées progressivement à la réflexion de chercheurs et de chercheuses qui estiment que l'économie prend toute sa valeur et tout son intérêt lorsqu'on la regarde hors d'elle-même. C'est précisément l'aventure théorique intellectuelle dans laquelle s'est lancé notre invité du jour qui a fait de l'histoire de la pensée économique son cheval de bataille. Des figures des grands penseurs à l'évolution des courants qui constituent l'économie, Anicott est allé là où sa curiosité l'a mené pour comprendre d'où vient et où va l'économie et pour transmettre ses enseignements aux générations suivantes. Il était donc logique de la recevoir dans cette émission que nous consacrons tous les jeudis aux grands penseurs de l'économie, une émission préparée par Paul Weinarter, programmée par Bruno Barada, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Marie-Claire Oumamadi. Anicott, bonjour.
Bonjour Aliette Devine, merci pour cette invitation.
C'est moi qui vous remercie de l'avoir acceptée. Vous êtes professeure émérite à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Vous avez une université où vous avez également étudié, si je ne m'abuse. Vous vous êtes intéressée à un très grand nombre de sujets, de thématiques, de champs aussi, de l'économie du développement aux origines des crises financières. Une diversité qui s'incarne surtout à travers de grandes figures, de penseurs auxquels vous avez consacré nombre de publications, de Jérémy Bentham à Albert Hirschman, en passant par Irving Fisher ou Léon Valras. Alors il est très compliqué de fait de vous faire entrer dans une seule case, mais là n'est pas le but, donc ça tombe bien. Et au-delà des cases, Anicott, quel fil rouge a guidé votre parcours intellectuel et votre façon d'aborder l'économie? En somme, quel est votre critère lorsque vous décidez de vous intéresser à un sujet?
À un sujet ou à l'économie?
À un sujet. L'économie viendra ensuite.
Le plaisir, l'amusement, la curiosité. À l'économie, Le déclencheur, ça a été, allez, je trouvais que l'économie était une discipline importante pour comprendre ce qui se passait depuis 3 siècles dans les sociétés occidentales. J'ai donc fait des études d'économie, en même temps des études de sciences politiques, un peu d'anthropologie, j'ai butiné à droite et à gauche, mais surtout j'ai atterri, je me suis inscrite dans le DEA, ça s'appelait à l'époque l'équivalent du Master 2, de la personne qui avait introduit l'épistémologie économique en France, qui s'appelle Hubert Brochier, qui a été mon directeur de thèse par la suite, et qui nous a fait lire, alors que nous avions fait des études de micro, de macro, d'économie internationale, etc., comme tout bon étudiant d'économie, qui nous a fait lire Foucault, que l'on vient d'entendre, qui nous a fait lire Bachelard, Canguilhem, Coiré, Ivan Illich, l'école de Francfort, les anthropologues, Clastre, Marshall Salins, donc, qui nous a ouvert des portes, on aurait dit un film muet des années 20 où les portes s'ouvrent et s'ouvrent et s'ouvrent et s'ouvrent. Et c'était passionnant. Et donc, j'ai le sentiment nous avons tous, moi en tout cas, mes petits camarades aussi, passer une année à lire, à discuter, à parler, à rester là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait être un bon économiste en s'intéressant à des quantités de disciplines qui n'étaient pas économiques.
Et est-ce qu'à l'époque, ce positionnement-là était relativement iconoclaste, relativement marginal, ou est-ce que cela commençait à devenir une sorte de norme?
Iconoclaste, je ne sais pas, mais très mal vu, oui.
Ce qui est quand même un bon indice, tout de même, de la nature de cette démarche-là.
Très mal vu, l'histoire de la pensée économie était un peu l'histoire des grands auteurs, centrés sur des thèmes décidés comme des noyaux durs de la discipline, et on avait totalement d'ailleurs coupé avec une tradition qui était celle d'un certain nombre d'historiens de la pensée économique français à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, je pense au manuel de Charles Gide et Charles Rist, qui a été la Bible de génération et de génération d'étudiants, qui était ouvert, le manuel était ouvert à la fois sur ce qu'ils appelaient les théories et sur les doctrines, c'est-à-dire sur les débats culturels, les débats de politique, les divergences de points de vue, le rôle de la religion. On retrouvait toute une série de considérations qui ensuite, accompagnant le cours de la discipline, ont relativement disparu avec une mathématisation, une formalisation croissante en France de la discipline après la Deuxième Guerre mondiale, qui a eu son pendant, en fait, du côté de l'histoire de la pensée économique.
Anicot, on va beaucoup dire tout au long de cette émission à quel point l'économie peut se nourrir d'autres disciplines, à quel point ses frontières sont fluctuantes aussi. Avant de rentrer dans ces considérations-là, je voudrais tout de même insister sur un point. Vous l'avez dit vous-même, vous avez pas mal butiné, on va dire, entre les disciplines et notamment avec la science politique. Votre choix s'est tout de même porté sur l'économie. Vous faites une thèse d'économie. Est-ce qu'on peut rendre à César ce qui appartient à César et se demander finalement pourquoi l'économie, pourquoi ce choix de l'économie, que permet l'économie ?
C'était quand même une thèse sur les frontières de la discipline. C'était ce que, de manière assez prétentieuse, j'appelais une déterritorialisation de l'économie. Le mot était mal choisi, d'ailleurs. Je pense, moi, et là, je suis assez d'accord avec ce qui est derrière l'extrait que vous venez de donner de Michel Foucault. Je pense que, depuis 3 siècles, l'économie a remplacé le droit comme discours de légitimation d'un équilibre, d'une façon d'être des sociétés modernes. Alors pour Foucault, c'est d'un art de gouverner, mais c'est plus qu'un art de gouverner, c'est vraiment ce qui fait tenir ensemble les sociétés modernes. Les sociétés d'ancien régime tenaient sur un pouvoir centralisé, une monarchie de droit divin, et donc le droit, le contrat social hobbésien et le droit comme règle, comme structure, comme armature, comme squelette du fonctionnement de ces sociétés. Et la thèse de Foucault qu'il développe dans ses cours au Collège de France est que à un moment donné, le droit a été évincé par l'émergence de cette discipline qui était encore in statu nascendi, qui se cherchait, qui n'était pas totalement autonomisée par rapport à la philosophie politique ou à la morale, mais qui affirmait l'économie politique libérale, qui en ce moment est mise à mal par ce qui se passe en termes géopolitiques depuis quelques mois, qui affirmait que le libéralisme supposait que l'État s'efface, et donc que l'État n'embastille plus, n'ait plus de monopole, ne soit plus fondé sur un équilibre de guerre, de rapine, ce qui revient aujourd'hui, mais ce qui, pendant 3 siècles, a été une doctrine. Ça ne veut pas dire que la réalité était une réalité sans guerre, sans rapine et sans monopole. Ça veut dire que cette idée fondamentale que les représentations que les sociétés se donnent d'elles-mêmes sont ce qui les font tenir ensemble, et progressivement passé du droit à l'économie, à la théorie économique. Et cette idée de Foucault me paraît assez justifiée.
Alors justement, Anicot, vous venez de mentionner cette idée fondatrice de Foucault qu'on a un tout petit peu entendu en tout début d'émission pour donner plus de détails et plus de corps aussi à cette pensée-là qui va aussi nous servir de fil rouge dans cette première partie d'émission. Je vous propose de l'écouter dans son intégralité, ou en tout cas un extrait un tout petit peu plus long. C'est un extrait donc d'un cours qu'il donne au Collège de France le 28 mars 1979, issu d'enregistrements clandestins.
Le souverain, qui est un homme seul, entouré de conseillers plus ou moins fidèles, s'il entreprenait la tâche infinie de surveiller la totalité du processus économique, se verrait sans doute trompé par des administrateurs et des ministres infidèles. Mais la phrase veut dire aussi que ce n'est pas simplement par l'infidélité de ses ministres ou la complexité d'une administration forcément incontrôlable qu'il commettrait des erreurs. Il commettrait des erreurs, en quelque sorte, pour une raison essentielle et fondamentale. Il ne pourrait pas ne pas se tromper. Et c'est d'ailleurs ce que dit la fin de la phrase, lorsque, parlant donc de cette tâche, de cette charge dont le souverain doit se trouver déchargé, la tâche de surveiller la totalité du processus économique, pour l'accomplissement convenable de cette tâche, il n'y a aucune sagesse humaine ni aucune connaissance qui suffisent. La rationalité économique se trouve non seulement entourée par, mais fondée sur l'inconnaissabilité de la totalité du processus.
Un souverain qui voudrait surveiller l'intégralité du processus économique ne pourrait pas ne pas se tromper. On va étudier et analyser en détail, Annie Cotte, les propos de Foucault et ce qu'a apporté aussi Foucault à l'histoire de la pensée économique et à l'économie politique aussi. Avant ça, je voudrais tout de même vous demander une chose qui est fondamentale aussi pour comprendre d'où l'on parle. Est-ce que aider le souverain à ne pas se tromper, c'est aussi ça le rôle de l'économiste et a fortiori de l'économiste qui aurait une connaissance très fine de l'histoire de la pensée économique?
Oui, la fonction de conseiller du prince a toujours été, depuis les mercantilistes, une fonction centrale. Ce que dit Foucault, d'abord, quelle voix intelligente. Je ne sais pas ce que ça veut dire, une voix intelligente. Mais c'est une intelligence qui s'incarne dans cette voix un peu métallique, claire. Je suis toujours très impressionnée quand j'entends Foucault. Pour revenir à votre question, cette fonction a toujours existé. Elle a pris des formes différentes. Conseiller le souverain au XVIe siècle, associer ce que Machiavel appelait les intéresses et les intérêts et les ragioni di Stato, la raison d'État, c'était effectivement la fonction d'économiste qui d'ailleurs n'en avait pas le nom. C'était la fonction de conseiller, infidèle peut-être, disait Foucault, de conseiller en tout cas qui réfléchissait aux règles de gouvernement. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus des économètres, des expérimentateurs, des experts, et qui ne sont pas ces conseillers qui chuchotaient, qui murmuraient à l'oreille des princes et qui essayaient de donner des conseils. Donc les formes ont changé, mais l'économie a toujours été politique, c'est-à-dire a toujours eu partie liée avec un équilibre de la société et ce que Foucault appelle un art de gouverner.
On entendait là un extrait, je le disais, de 1979. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Foucault met un pied, on va dire, aussi.
C'est dans Naissance de la biopolitique ou Sécurité, territoire, population?
Eh bien, c'est dans aucun des deux. C'est dans une conférence qui est intitulée Homo economicus, mais qui fait partie tout de même de la conférence plus globale qui est Naissance de la biopolitique. Mais
c'est 79, c'était le cours
79, voilà, c'est bien lui. Même si, comme je le disais, ces enregistrements-là ne sont pas tout à fait officiels. Ils ont été récupérés notamment par France Culture, voilà, pour être mis en ligne. Et d'ailleurs, vous pouvez les trouver en ligne, sachez-le. Annie Cotte, avant cela, avant 1979, Michel Foucault avait déjà publié un certain nombre d'ouvrages depuis environ une dizaine d'années. Qu'est-ce que vous, en tant qu'historienne de l'économie, vous avez trouvé dans la lecture, notamment de l'archéologie du savoir qui paraît en 1969? Est-ce que c'est là une rupture avec l'histoire de la philosophie des sciences telle qu'elle était conçue jusque-là?
Je dirais qu'il y a trois grands blocs qui ne sont pas nécessairement chronologiquement organisés, dans les sujets dont s'est saisi Michel Foucault, qui me paraissent très, très intéressants pour l'histoire des sciences sociales en général et l'histoire de l'économie politique plus particulièrement. Il y a effectivement ce premier bloc que vous venez de dénoncer avec les mots et les choses, 66. Dans l'été, et ça vient juste d'être reparu, il prolonge l'écriture de Les mots et les choses, et il répond aux critiques qui lui ont été adressées dans le discours philosophique. Ensuite, l'archéologie du savoir, et puis la petite leçon inaugurale, la très jolie leçon inaugurale au Collège de France qui s'appelle L'ordre du discours. Ça, c'est une première série de quatre textes dans lequel le discours économique est vraiment pris comme un discours, c'est-à-dire replacer. Alors, la chronologie des historiens de la pensée économique est malmenée, ce qui toujours très intéressant, ça oblige à réfléchir à nouveau frais. Mais où le discours économique est placé, replacé, par rapport à la manière d'articuler les mots, les choses, ou plutôt de mettre les choses en ordre. Le titre anglais, c'est « The Order of Things », l'ordre des choses. Donc, de mettre les choses en ordre dans nos sociétés depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Et il va s'intéresser au discours économique, à la théorie économique, même s'il élargit le corpus, à ce qu'il appellera par ailleurs des archives, c'est-à-dire des textes administratifs, des manuels, des journaux, des textes parlementaires. Mais on reste dans l'économie politique ou la théorie économique comme un discours. Ça, c'est un premier bloc. Le deuxième bloc, avant de passer au troisième, qui serait les leçons du Collège de France, c'est tout ce qu'il a écrit à la suite de Canguilhem sur le normal et le pathologique. Et là, il y a une fenêtre historiographique que moi je trouve extrêmement intéressante, qui consiste à regarder, à comprendre le centre à partir de la périphérie, à comprendre le normal à partir du pathologique, et à comprendre ce qu'ont dit les économistes sur le monde, sur la société, à partir de ces cas marginaux qu'étaient les femmes, les colonies, les esclaves, c'est le non-marchand. Et donc, tous ces objets qui n'étaient pas centraux, dont d'ailleurs souvent des femmes se sont saisies, puisqu'elles n'étaient pas légitimes pour discuter du cœur de la discipline, et elles sont allées chercher autour, et elles ont apporté énormément... avec ça, je pense à quelqu'un, par exemple, qui s'appelle Evelyne Forget aux États-Unis. Et donc, tous ces objets donnent, d'une part, produisent une réflexion sur ce que les auteurs ont pu dire sur le centre et sur le cœur, et d'autre part, permettent de réfléchir à ces frontières. Et là, on a des frontières qui bougent, avec l'histoire, évidemment, mais aussi avec des empreintes, traveling objects, des objets voyageurs, des objets qui se promènent. Est-ce que le travail domestique fait partie de la discipline économique ou n'en fait pas partie? Et comment est-ce qu'il est intégré, expulsé, rejeté? Il y a toute une série de débats en économie du développement sur le secteur informel, en économie publique sur l'administration par l'État d'un certain nombre de biens ou de services. Et donc cette histoire de frontières dit beaucoup sur la méthode de la discipline, sur la construction de la discipline, sur son évolution historique.
Ce qui est intéressant, Anicott, c'est que vous dites dans un des documents que vous avez pu écrire, vous dites que cette approche-là de l'histoire de l'économie et de la théorie économique beaucoup plus philosophique a été très longtemps négligée, que ce soit aux États-Unis mais aussi en Europe, malgré la présence de Foucault. Comment on explique cet oubli, cette mise à l'écart peut-être aussi de cette approche plus philosophique?
Elle a été oubliée en France, pays de Descartes, s'intéresse à ce qui est scientifique, bien balisé au cœur d'une discipline. Ce qui est étrange, parce qu'aujourd'hui, par exemple, la recherche se fait beaucoup aux marges de la discipline. Elle se fait aux marges entre l'économie et les sciences cognitives, la psychologie, la sociologie, la géographie, l'histoire, la médecine, etc. Et donc, c'est là que ça bouge, c'est là que c'est amusant. Mais pour revenir à ça, donc dans la tradition, pas seulement française mais européenne, il y avait des cadres assez rigides pour réfléchir à l'histoire des théories économiques, à l'histoire des sciences en général d'ailleurs. Et c'est plutôt du côté des États-Unis et un peu de l'Angleterre que sont venus ces nouveaux regards portés beaucoup par des historiens des sciences ou des sociologues des sciences et qui ont posé de nouvelles questions et qui ont ouvert, je pense, aux États-Unis, à quelqu'un qui était un chercheur absolument magnifique, s'appelait Bob Coates, qui a fait proposer un programme dans la grande revue, qui reste la grande revue d'histoire de la pensée économique, History of Political Economy, HOPE. Premier numéro, 60...
Avril 69.
9, j'allais dire.
On retrace la chronologie. Quand
même. Premier numéro, premier article, premier volume, un programme de recherche qui est encore utilisé. Un programme de recherche où dit on va cesser de s'intéresser aux grands auteurs, on va ouvrir le corpus, on va regarder la sociologie des économistes, qui est économiste, pourquoi il y a moins de femmes, pourquoi. Il pose une série de questions, comment l'économie est utilisée dans les parlements, par la politique, comment est-ce que l'économie est utilisée comme rhétorique. Et donc il ouvre une série de pistes qui sont encore certaines, n'ont pas encore été explorées, et qui donnent encore un programme de recherche, et ça c'était il y a 50 ans. Donc Bob, et lui-même, a écrit sur toute une série de débats, les débats sur la liberté académique, par exemple, au moment de la Première Guerre mondiale aux États-Unis, sont tout à fait passionnants, puisque, à l'exception de Johns Hopkins, les universités étaient privées, souvent contrôlées par... Des hommes d'affaires qui n'étaient pas totalement progressistes, qui étaient assez religieux. Et donc, il y a un certain nombre de positions politiques des universitaires en général, pas seulement des économistes, qui étaient condamnés. C'est-à-dire que non seulement ils pouvaient être renvoyés des universités, mais il y a eu des procès. Et donc, il a étudié ce genre de choses. Donc, moi, j'ai toujours été intéressée par ces débats de méthodes, de conflits, qui se jouent un peu aux marges de la discipline et qui éclairent, encore une fois, sur l'état de la discipline. Et donc, les questions qui sont posées par les économistes, les réponses qu'ils peuvent apporter et les propositions de politique économique, tout ça se tient.
Tout ça se tient, et d'autant plus, et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant chez Bob Coates, c'est qu'il y a cette idée, et vous l'avez évoqué très forte, de volonté d'institutionnalisation aussi de cette profession, ou en tout cas de ce que sont ou ce que pourraient être les économistes. Il y a cette volonté presque de rationaliser aussi, ou en tout cas donner des processus très clairs sur le classement des articles, on va dire la reconnaissance aussi des économistes en tant que professionnels. Finalement, on revient à Nicot aussi à cette notion d'économiste qui pourrait servir à quelque chose, qui pourrait, une fois bien identifié, qui pourrait être soit conseiller du prince, soit avoir une opinion, ou en tout cas un avis éclairé, potentiellement scientifique sur la marche du monde. Ça sert aussi à ça, cette reconnaissance institutionnelle.
Bien sûr, mais je crois que les économistes ont toujours servi à quelque chose. Ils ont des postures différentes, ils ont des positions méthodologiques différentes, ils ont des croyances politiques différentes, des croyances religieuses parfois différentes. Tout ça peut jouer, mais les économistes s'intéressent à la marche du monde, s'intéressent au fonctionnement des sociétés, et il y a eu des... Je n'aime pas le mot de progrès en science, il me gêne un peu. Mais les économistes maîtrisent quand même beaucoup plus aujourd'hui qu'au 19e siècle, après la Première Guerre mondiale, après la crise de 29, après la Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre de troubles, de désordres qui sont contrôlés par les banques centrales, par des réglementations bancaires. C'est un peu tout ça qui est mis à mal aujourd'hui, et qui oblige encore une fois à penser contre soi et à revenir à l'époque des mercantilistes, à revenir à l'époque des monopoles, à revenir à l'idée que l'économie peut se construire contre les États, contre les règlements, contre les parlements, contre la démocratie. Ce qui est difficile à penser, donc très amusant, mais difficile à penser.
On l'a dit, Michel Foucault insistait sur l'inconnaissabilité du processus économique, ce qui empêchait de fait le souverain de prendre une décision. Mais il poursuit de fait cette fameuse leçon au Collège de France en 1979 en insistant sur la figure cette fois de l'homo economicus. Et c'est la suite du propos qu'on entendait juste avant.
L'homo economicus, c'est le seul îlot de rationalité possible à l'intérieur d'un processus économique dont le caractère incontrôlable ne conteste pas, mais fonde au contraire la rationalité du comportement atomistique de l'homo economicus. Ainsi, le monde économique est par nature opaque. Il est par nature intotalisable. Il est originairement et définitivement constitué de points de vue dont la multiplicité est d'autant plus irréductible que cette multiplicité même assure spontanément et en fin de compte leur convergence. L'économie est une discipline athée, l'économie est une discipline sans Dieu, l'économie est une discipline sans totalité, l'économie est une discipline qui commence à manifester non seulement l'inutilité, mais l'impossibilité d'un point de vue souverain, d'un point de vue du souverain sur la totalité de l'État qui a à gouverner. L'économie subtilise à la forme juridique du souverain exerçant sa souveraineté à l'intérieur d'un État, il lui subtilise ce qui est en train d'apparaître comme l'essentiel de la vie d'une société, à savoir les processus économiques.
Nicot, on entend là quelque chose de très fort et d'assez fondamental. En fait, finalement, selon Michel Foucault, l'économie politique qui émerge, de fait, qui se formalise, on va dire, au XVIIIe siècle, implique une nouvelle forme de rationalité de gouvernement. L'action publique est, de fait, limitée à cette sphère. En quelque sorte, ce qui limite l'action de l'État, ce n'est pas tant la loi pour Foucault, c'est l'économie politique qui devient un instrument de calcul, une façon rationnelle de réfléchir, de raisonner, de prendre des décisions. Quelles conséquences cela a pour Foucault, Nicot?
J'ai un problème avec la chronologie de cet extrait. La séparation de l'économie vis-à-vis de Dieu Donc l'économie est une discipline athée, l'économie est une discipline sans Dieu, les formules sont magnifiques, se fait au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est à ce moment-là que l'économie politique s'autonomise, trouve ses propres objets, ses propres lois de fonctionnement, et n'a pas besoin de l'hypothèse de Dieu, cesse d'être uniquement tournée vers le conseil aux princes, qui était quand même très conjoncturel, si j'ose dire. Donc ça se fait assez tôt. L'idée d'un comportement atomistique, c'est un débat qui a été relancé, qui est relancé tout au long de l'histoire de la discipline, avec deux points de vue. Il y a les partisans de l'individualisme méthodologique, qui sont souvent des libéraux au sens de l'école libérale française, et il y a toujours eu des courants institutionnalistes, des courants socialistes, puis des courants keynésiens, qui replaçaient comme objet premier de l'économie, la totalité des phénomènes économiques, avec l'idée que les lois macroéconomiques ne se réduisent pas à des lois microéconomiques que l'on généraliserait. Et puis, dernier problème de chronologie en écoutant cet extrait que je ne connaissais pas, l'homo economicus a toujours été une hypothèse théorique. Et donc, ses adresses, ses critiques contre la science sinistre, ça c'est le terme de Carlyle, disant « mais les individus ne sont pas rationnels », évidemment les individus ne sont pas rationnels. Et John Stuart Mill, à qui on prête la paternité du terme homo economicus, précise que c'est au contraire une manière d'être modeste pour les économistes, c'est-à-dire de dire voilà, on a cette hypothèse d'action rationnelle, parce que comme disait Hobbes, si on n'a pas ça, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire sur la totalité. Donc il faut supposer qu'il y a une structure de comportement qui est rationnelle, mais on a besoin des autres disciplines. On a besoin de la sociologie, de la psychologie, de l'anthropologie. Ce n'est pas les termes de Smith, puisque la sociologie et l'anthropologie n'existaient pas en 1836. On a besoin des autres disciplines et les économistes ne peuvent parler que des conditions de production et de circulation des biens marchands. Et c'est une leçon d'humilité magnifique. Et Mill disait ce que dira Walras aussi après, les économistes n'ont pas spécialement d'outils pour parler de la répartition des revenus. Ce sont des choix politiques, ce sont des choix moraux. Tout dépend de la manière dont on considère les individus. Si un individu est un esclave, il n'est pas rémunéré comme un salarié. Si un individu est une femme aujourd'hui, elle n'est pas rémunérée comme un homme. Ce sont des choix de société. Et les économistes peuvent expliquer que ce n'est pas rationnel, mais ce n'est pas une voie, c'est pas leur voie qui fera changer les choses. Donc il y a quelques... C'est très général ce que dit Foucault, mais je n'ai pas répondu à votre question.
Non, qui était de savoir finalement quelles étaient les conséquences très concrètes de ce que nous dit Foucault dans cet extrait-là aussi, de se dire que finalement, à partir du moment où ce n'est plus la loi qui circonscrit l'action publique, mais que c'est justement un mode de calcul rationnel que serait l'économie politique, quelles conséquences très concrètement cela, notamment pour le corps social, notamment pour cette méthode de gouvernement nouvelle.
Les conséquences pour Foucault, ce qui s'est passé pour partie historiquement, c'est le retrait relatif de l'État, pour des raisons, il le dit assez clairement, qui ne sont pas exogènes mais endogènes. C'est-à-dire que le discours de légitimation de l'État suppose que l'État se retire d'un certain nombre de domaines. Ça ne s'est évidemment jamais passé comme ça. On peut se dire qu'aujourd'hui, il y a des tentatives du côté de l'Argentine ou des États-Unis qui viseraient ça, mais ça va provoquer de graves désordres et je ne suis pas sûre que ça dure très longtemps. Je le souhaite, en tout cas, que ça ne dure pas très longtemps. Mais l'État, évidemment, est là. Alors l'État, même quand on prend les textes de Smith, qui était loin d'être un ultralibéral, l'État, de toute façon, est garant de la police, de la justice, d'un certain nombre de fonctions régaliennes. La question est, est-ce que l'État doit intervenir sur les marchés? Et ça, c'est un débat qui dure depuis le XVIIIe siècle. Il y a des très beaux débats à la fin du XIXe siècle aux États-Unis sur des notions concurrentielles de la concurrence. competing notions of competition, où il y a, alors il y a les démocrates contre les républicains, il y a le Sud contre le Nord, il y a les anciens pays États esclavagistes contre les États non esclavagistes. Il y a toute une série de débats qui se mêlent là-dedans et qui sont très intéressants à analyser aujourd'hui à la lumière de ce qui se passe, puisque on assiste à un retour des monopoles, un retour du rejet de la réglementation étatique incarnée par l'Europe, un retour du rejet d'une certaine manière de la démocratie et du contrôle des peuples sur la manière dont l'économie peut être gérée. Donc il y a là une série d'éléments. Je pense qu'avec cette thèse, qu'on peut évidemment discuter chez Foucault, elle est trop affirmée, mais elle rend intelligent, comme souvent chez Foucault. Et avec cette thèse, il y a une série... Je pense qu'il y a une série de questions très contemporaines qu'il faut repenser aujourd'hui dans ce monde géopolitique turbulent.
Anicote, et je fais là un vaste lien et une sacrée avancée dans le temps aussi, mais aussi avec entre Michel Foucault et votre parcours plus personnel. Il faut souligner un point important, c'est que Michel Foucault, c'est une évidence, n'est pas économiste en tant que tel. Il est philosophe qui porte un regard sur l'économie depuis l'extérieur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur cette marge depuis la marge vers le centre. C'est aussi la démarche que vous avez menée, vous l'avez dit en tout début d'émission, avec votre thèse, une thèse qui s'intitule « L'économie hors d'elle-même », donc on est précisément dans ce cadre-là, de point essai sur le néo-utilitarisme, une thèse soutenue en 1988. Votre directeur de thèse, vous l'avez également dit, est Hubert Brochier. J'aimerais bien qu'on revienne sur ce personnage pour comprendre aussi ce qui vous a fait basculer dans cette idée d'observer le centre depuis les marges. Est-ce que c'était là une idée, on va dire, que portait Hubert Brochier? Est-ce que c'était là quelque chose que vous avez concocté, on va dire, ou une volonté propre? Dans quelle mesure, finalement, encore une fois, vous vous situez vous-même aux marges en commençant ce travail-là?
Hubert Brochier était philosophe, psychanalyste, et passait une grande partie de son temps, en dehors de ses travaux d'universitaire. C'était un excellent économiste, il avait un manuel d'économie financière, le Brochier Tabatoni, qui était célèbre. Il a beaucoup écrit... Comme en tant qu'économiste, il a écrit sur le Japon, il a dirigé la maison franco-japonaise pendant quelques années. Mais Hubert Brochier n'était pas foucauldien. Mais il nous a fait lire Foucault. Il a dialogué avec Bourdieu, il était en désaccord avec Bourdieu. Il était plus intéressé par Bourdieu que par Foucault, d'une certaine manière. Mais il nous a mis les mots et les choses entre les mains. Et quand on lit les mots et les choses, et qu'on commence à lire « Surveiller et punir l'histoire de la folie », etc., on va lire Canguilhem. Et quand on lit Canguilhem, on s'intéresse aux relations entre le normal et le pathologique, donc à ces frontières mouvantes au cours de l'histoire, et aux raisons pour lesquelles ces frontières bougent. Lorsqu'on prend l'histoire de la médecine chez Canguilhem ou chez Foucault, et c'est applicable à l'économie, ce qui fait bouger les frontières, ce sont aussi des statistiques, des expériences. Enfin, il y a des outils formels qui jouent un rôle central dans l'évolution de ce regard clinique dont Foucault a beaucoup parlé.
Anicote, c'est donc finalement ce regard, encore une fois, décentré vis-à-vis de l'économie qui vous incite à vous préoccuper de ce sujet de l'économie hors d'elle-même dans votre thèse, une thèse donc soutenue en 1988. On se situe 20 ans finalement après les travaux, les apports de Bob Coates et ceux de Michel Foucault. Vous l'avez dit en tout début d'émission, ce n'est pas pour autant que les choses ont fondamentalement avancé. Cela reste une position relativement marginale, en tout cas en France. Cela étant, pendant votre thèse, vous partez notamment aux États-Unis assister à un certain nombre de colloques. Est-ce que là, les apports de Bob Coates sont davantage infusés? Là, est-ce que l'histoire de la pensée économique, est-ce que l'idée d'une économie qui se nourrit d'autres disciplines a davantage avancé?
Oui, évidemment. Ça a été une merveilleuse découverte. Les colloques de la History of Economic Society étaient pour moi d'une liberté intellectuelle que je voyais moins en France ou en Europe. Encore une fois, à l'exception de l'Angleterre, mais en Angleterre, c'était plutôt du côté des sociologues des sciences ou des historiens des sciences que les choses bougeaient. Il y avait Bob Coates, qui était un homme merveilleux, drôle en plus, et qui était bon lecteur, fin, drôle, qui a joué un rôle très, très, très essentiel. Il partageait son temps entre l'Angleterre et les États-Unis. Il était à Duke. Il y a eu Philippe Mirovski, qui a beaucoup travaillé sur l'importation, par les économistes de modèles formels, de modèles mathématiques, de manières de raisonner, venues soit de la physique, soit des sciences de la nature. Et il montrait comment, par exemple, les auteurs marginalistes de la fin du XIXe siècle ont construit leur système, les plus importants, je pense à Irving Fisher ou Léon Valras, ont construit leur système en empruntant à la physique de leur époque des modèles mathématiques et en transférant des concepts économiques dans ces modèles mathématiques, avec des tableaux très explicites, en disant « une force, ça va être ça hein, », bon, voilà, avec des tableaux de traduction. Et puis, il y a eu ça aussi sur les théories évolutionnistes, puis sur les théories biologiques, il y a eu ça sur la médecine. Et donc, il y avait ces ouvrages de Mirovski, qui est un très grand historien de la pensée économique à cet égard, qui a montré que ces sciences sociales étaient structurées par ces modèles formels qui, par ailleurs, sont de plus en plus importants. Il y a une jolie expression de Mary Morgan disant que depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'économie est une discipline outillée, a tool discipline. Et donc, on ne peut pas comprendre l'économie si on ne va pas regarder les modèles théoriques, les modèles économétriques, les expériences aujourd'hui, le type de statistiques et l'évolution des statistiques. Et donc, ces outils vont contribuer à mettre en forme le réel, les objets empiriques, et donc à façonner les questions et donc à orienter les réponses. Donc cette attention portée au modèle formel était très développée aux États-Unis, très peu. Autre grande découverte, si j'ose dire, j'avais travaillé sur le travail domestique et la famille dans ma thèse, puisque Gary Becker avait appliqué les modèles très standards de la microéconomie marshallienne à des domaines non marchands, dont le travail domestique et la famille. Et là, il y avait ces réflexions des féministes américaines, mais ça, on les connaissait un peu en France, mais de quelqu'un, je l'ai cité tout à l'heure, comme Evelyne Forger, qui s'est beaucoup intéressée au rôle des femmes en économie, au rôle des quelques femmes économistes, mais aussi à la manière dont, dans ce corpus large, qui n'était pas seulement la théorie économique, mais la diffusion des idées économiques, dont les femmes ont fait des traductions, qu'elles adaptaient, dont les femmes ont fait des manuels, dont les femmes ont fait des manuels d'économie domestique, où elles importaient dans ce domaine totalement non marchandisé, non marchand, non monétisé, un certain nombre de règles de gestion des entreprises. Et donc, il y avait ce travail qui n'est pas seulement le normal et le pathologique, ce travail sur ce que Foucault appelle l'archive, ou ce que Jean-Claude Perrot aussi a développé dans ses travaux, sur un corpus élargi sans lequel on ne comprend pas la seule logique glaciale des successions de théorie économique.
Nicole, vous avez mentionné Philippe Mirovski, qui a définitivement joué un rôle très important. Vous venez de l'évoquer. Je vous propose d'écouter sa voix. C'est un extrait relativement court, mais qui nous raconte beaucoup de choses de sa vision aussi de l'économie. Il s'exprimait en 2015 lors d'une conférence à l'université Leuphana de Lunenburg.
Quel est le rôle des économistes aujourd'hui ? Le rôle des économistes n'est pas simplement de prêcher les merveilles du marché comme ils l'ont fait antérieurement. Il est d'intervenir et de faire en sorte que les marchés fassent des choses pour leurs patrons. Et que ces patrons soient des entreprises privées ou des gouvernements. Avant les années 80, il n'y avait aucune indication de cela en économie.
Anne-Nicotte, ça tombe bien, dans les années 80, vous commencez aussi à vous intéresser à l'économie. Est-ce que vous souscrivez à ces propos de Philippe Mirovski qui s'interrogent presque sur finalement une espèce de rôle moral aussi des économistes? On a beaucoup parlé depuis le début de l'émission de ce rôle des économistes, mais là, il y a une dimension un peu nouvelle, je trouve, qui arrive avec Philippe Mirovski. C'est aussi ce qu'il défendait, et ce qui peut être un peu surprenant à partir du moment où vous nous avez dit que justement, lui travaillait à élaborer, on va dire, des ponts entre des sciences plus dures, entre guillemets, et justement l'économie.
À élaborer ou à mettre au jour. Il y a deux grands morceaux dans les travaux de Philippe Mirovski, pour lequel j'ai une immense amitié. Il y a ce qui m'intéresse le plus, ces échanges formels, mais qui lui permettent de revenir à des séquence entière dans l'histoire des théories économiques et de montrer, par exemple, le rôle de ce qu'il appelle la cybernétique, l'informatique. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les laboratoires où les économistes collaboraient avec des ingénieurs pour des plans de vol et des choses très techniques, et où ces échanges de disciplines provoquaient un renouvellement de la manière de penser les économistes, de leur formalisme. Il a un livre extrêmement intéressant sur les théories de l'information, montrant comment le renouvellement de la conception de l'information qu'ont les économistes, qui est centrale, vient totalement des autres disciplines et de l'importation des modèles. Et puis, il y a un deuxième volet qui lui tient à cœur, qui est une réflexion sur le néolibéralisme et l'émergence du néolibéralisme, et donc sur le rôle croissant des marchands. Je crois que le mot « patron » n'est pas traduit seulement par « patron », ce sont les financeurs en général. Et donc sur ce rôle des financeurs, sur ce rôle des réseaux sociaux, sur le rôle des cyborgs, des objets cybernétiques, sur le développement des réseaux sociaux, sur la marchandisation de la théorie économique elle-même, c'est-à-dire sur la production de ce qu'on appelle les big data, pour ne pas dire les données contemporaines. Donc il y a un deuxième volet. J'ai plus travaillé moi sur le premier volet.
On avait peut-être compris ce penchant de votre part, Annie Cotte. Pour terminer ce tour d'horizon de la façon aussi dont l'histoire de la pensée économique s'institutionnalise progressivement, accède à une forme de reconnaissance aussi. On a beaucoup parlé des États-Unis. Il faut dire peut-être aussi qu'en France, les choses avancent, certes progressivement, mais elles avancent. En 1983 est fondée l'association Charles Gide, que vous évoquez un petit peu plus tôt dans l'émission, une société scientifique qui met en avant justement les travaux de recherche consacrés à l'histoire de la pensée économique. Vous en avez été la présidente, fut un temps. Est-ce que concrètement, ce genre d'association, ce genre d'initiative marque l'idée d'une avancée quand même en termes de prise en compte de ce que peut représenter l'histoire de la pensée économique en France ?
Oui, d'une forme de professionnalisation, c'est-à-dire que se développe, cela existait avant, les colloques, les laboratoires, les séminaires de thèse, c'est là. Ça fait partie des choses les plus passionnantes dans le métier d'universitaire, d'organiser des groupes de doctorants qui discutent entre eux, de leur faire lire des choses justement qui ne sont pas strictement liés à leur sujet de thèse, c'est un travail absolument merveilleux. Et je pense que cette professionnalisation a eu lieu en histoire de la pensée économique, comme elle a eu lieu en général dans la discipline. Il y a quand même, et là, des travaux, comme elle a eu lieu dans la société, il y a des très beaux travaux des historiens des sciences, Michel Armat, Alain Desrosières, aux États-Unis, Ted Porter, sur la fonction d'ingénieur. Qui est celle des statisticiens, qui est celle des économistes, qui est celle des économètres, et qui est tout à fait passionnante parce que on a tendance à voir l'histoire de ces disciplines comme une série de débats théoriques. On passe de Quetelet à Galton et Pearson, ça change la conception des statistiques pour prendre cet exemple. Et en fait, ce qu'il montre, c'est que les statistiques servent à catégoriser un certain nombre d'institutions, à installer des individus dans ces institutions en les catégorisant, et donc que les statistiques contribuent à construire le social, un peu à l'image de l'ouvrage qui a été très discuté et qui nous a tous fait beaucoup réfléchir, de Robert Salley avec Bénédicte Reynaud et Nicolas Bavrez, sur l'invention du chômage. Comment est-ce qu'une catégorie qui n'existait pas dans la société, qui n'existait pas dans la théorie économique au XIXe siècle, il y avait les pauvres, il y avait les indigents, il y avait des outils rhétoriques pour parler des individus qui n'avaient pas d'emploi ou qui n'avaient plus d'emploi. Et là, tout d'un coup, cette catégorie de chômage apparaît. Et cette catégorie, en 10 ans, va créer un statut social. Mon voisin était pauvre. Mon voisin est chômeur, c'est très différent. Va créer des aides sociales, va créer le développement d'outils statistiques totalement nouveaux, va créer une théorie économique qui va être la théorie keynésienne, ce qui a quand même marqué tout le XXe siècle. Et donc, ce changement de perspective n'est pas seulement une rhétorique au sens de Matt Kloske, c'est vraiment là une construction sociale, un peu comme ce que dirait un auteur comme Yana King sur des catégories médicales qui vont construire, créer des maladies, surtout des maladies psychiques, et donc transformer le réel par la seule force de, c'est pas seulement des mots, la seule force de, encore une fois, de ces nouvelles catégories.
Et nous allons voir que les théories économiques se renouvellent aussi tout au long du XXe siècle et n'ont pas fini non plus de remodeler de fait aussi le réel, on en parle.
Et le XXIe siècle, encore aujourd'hui.
Bien sûr. Et on en parle dans quelques instants, Annie Cotte. La danse hongroise numéro 5 de Brahms.
Les danses hongroises.
Interprétée, mais c'est la numéro 50 du 1976 par les frères Kontarski. Un choix suggéré par notre invité du jour, Annie Cotte. Annie Cotte, pourquoi un tel choix?
Alphonse et Aloïs Kontarski sont des pianistes merveilleux. Pourquoi un tel choix? Parce que je pense que cet extrait, enfin, les danses hongroises, ont deux caractéristiques. Il y en a une petite troisième que j'ajouterai à la fin. Premièrement, c'est un quatre mains. Et le quatre mains, moi, m'a toujours beaucoup évoqué la recherche. C'est-à-dire qu'on pense, on est beaucoup plus intelligent, je ne sais pas, mais créatif, innovant, lorsqu'on débat. Alors, on peut débattre avec des vieux chercheurs chenus, on peut débattre avec des jeunes doctorants qui découvrent la recherche. C'est le même métier, c'est la même démarche. On a un matériau et il s'agit de faire parler ce matériau, de le mettre en forme, de trouver des cadres, de le rendre intelligible, de donner des idées sur ce matériau. Et ça, c'est le quatre mains. Il ne s'agit pas nécessairement, on peut écrire avec des gens, mais simplement le dialogue, la nécessité de se confronter, de critiquer, de discuter, de penser à quatre mains. Ça, c'est le premier intérêt des danses hongroises dans la version de piano, pas dans la version de concert. Deuxième intérêt, c'est qu'il y a des ruptures de rythme. Et ça va avec ce que vous avez appelé décentrer le regard, que j'ai appelé penser contre soi. La recherche oblige à tout le temps penser contre soi. Je citais tout à l'heure ce nouveau paysage géopolitique. Il oblige à, non pas oublier, mais à mettre de côté tout ce qu'on a en tête sur trois siècles de théorie économique et aller chercher des savoirs perdus, des thèses mercantilistes, en même temps à les adapter. Enfin, il oblige à inventer. Et si on fait ce métier qui est le plus beau métier du monde, c'est aussi pour se poser ce genre de questions. Et puis, je crois, il faudra vérifier, mais je crois me souvenir qu'il y a un extrait des danses hongroises dans la bande-son du Dictateur de Chaplin, qui est un film que nous avons absolument envie de revoir par les temps qui courent.
Vous l'avez dit, Annie Cotte, il peut être bon, il peut être utile de revenir sur trois siècles, 300 ans parfois d'histoire de la pensée économique. C'est ce qu'a fait un chercheur, un penseur, un grand théoricien aussi, Albert Hirschman, l'une des figures les plus originales des sciences sociales de la seconde moitié du XXe siècle, pour reprendre les mots d'Amartya Sen, et qui lui va investir un autre pan de l'économie, celle du développement aussi, comme il explique dans Grandeur et décadence de l'économie du développement, un article publié dans ses Essays in Trespassing en 1981.
L'économie du développement est une discipline relativement jeune. Branche ou rameau de la science économique, elle est née voici à peine plus d'une génération, sous le regard distant, mi-sceptique, mi-envieux, d'un certain nombre d'autres sciences sociales. Ses débuts, pendant les années 40 et 50, ces dernières surtout, seront d'une étonnante fécondité. C'est alors qu'elle créera nombre de ses concepts et modèles essentiels, ceux qui vont dominer la nouvelle discipline et nourrir les controverses auxquelles elle devra une bonne partie de son allant. Le bilan de cette époque passionnante, s'il en fut, a donc été bien plus positif pour l'économie du développement que pour l'objet de ses recherches, à savoir le développement économique des régions défavorisées de la planète, situées presque toutes en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Si l'on croit pouvoir constater depuis quelque temps qu'au moins cette disparité-là tend à se réduire, ce n'est pas malheureusement du fait d'un bond en avant des économies en cause, mais en raison plutôt d'une perte sensible de vitesse de notre discipline. Jugement subjectif, certes. Mais en ma qualité d'observateur, doublée de celle d'un participant de vieille date, je ne puis me défendre du sentiment qu'il ne reste pas grand-chose de la belle vitalité d'antan, que les idées neuves se font de plus en plus rares et que, décidément, la reproduction laisse à désirer.
Albert Hirschman est sans doute connu majoritairement, je ne sais pas pour celles et ceux qui nous écoutent, pour être l'auteur de Exit, Voice and Loyalty. C'est peut-être son ouvrage un des plus connus. Il est un artisan de ce fameux croisement des disciplines. Il a notamment animé un séminaire avec l'anthropologue Clifford Geertz, qui est une notion relativement peu économique, du moins d'un premier abord, celle de déception. Il est aussi historien de l'économie, puisqu'il publie en 1977 « Les passions et les intérêts justification politique du capitalisme avant son apogée ». Annie Cotte, Pourquoi Hirschman est une figure originale, pour reprendre là encore les mots de Sen, selon vous ?
Merveilleuse et originale. Son premier ouvrage, qu'il a écrit, la vie d'Albert Hirschman et la vie du XXe siècle. Il naît à Berlin, il s'engage dans la jeunesse socialiste contre le nazisme. Il quitte l'Allemagne, il va se battre avec les républicains espagnols, il va se battre avec les socialistes résistants en Italie, il fait une thèse. Il est le numéro 2, le bras droit de Varian Fry, qui a organisé cet extraordinaire réseau d'évasion des grands intellectuels, des grands peintres, des grands écrivains, qui étaient juifs et socialistes, juifs ou socialistes, et qui devaient fuir l'Europe, évidemment. Donc il part, le jour où il devait être arrêté, il part aux États-Unis. Il reste un peu, il revient comme traducteur des premiers procès des généraux nazis. Mais il part, il est envoyé en Colombie. Il passe quelque temps en Colombie. Entre ce passage, cette guerre mouvementée, elle l'était pour tout le monde, douloureuse et mouvementée, et la Colombie, il écrit un ouvrage qui s'appelle National Power and the Structure of Foreign Trade, qui est un ouvrage sur les liens entre la puissance politique d'une nation et sa capacité à tirer parti du circuit économique international. Ce qui a une actualité tout à fait passionnante aujourd'hui. Et c'est ce fil, c'est son tout premier ouvrage. Donc c'était sur la guerre, sur les dictatures pendant la guerre, et les rapines, l'économie de guerre, l'économie de rapine, l'économie de le forçage, le vol, ce retour à cette idée de d'un jeu à somme nulle dans le commerce international, où il s'agit de voler et non pas de collaborer pour augmenter la richesse commune des deux parties. Et ce lien entre le politique et l'économie, c'est le lien qu'il va tirer tout le temps. Il le tire en Amérique latine, en montrant comment la structure économique des pays du Sud, des pays d'Amérique du Sud, il a surtout étudié les pays d'Amérique latine, est une structure où il y a ce qu'il appelle des rationalités cachées, est une structure de croissance, mais de croissance non équilibrée. Ce sont des économies où le secteur informel est très puissant, où les solidarités familiales et sociales sont tout à fait différentes. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il a animé à un moment donné, pendant assez longtemps, un séminaire avec Clifford Geertz, qui est un grand anthropologue fonctionnaliste de l'époque. Et donc, cette idée qu'il y a des liens entre la structure politique au sens de la vie de la cité, au sens de la vie de la police grecque, la structure politique d'un pays et son économie est une idée qu'il va reprendre dans ses essais. Vous avez cité le recueil d'essais d'où est tiré votre extrait de tout à l'heure. C'est les essais dans la transgression, dans le trespassing. Donc on trespasse des frontières, des borders, des frontières disciplinaires et d'ailleurs des frontières nationales également. Et donc ce centrage de Hirschman sur ce qui se joue dans la mentalité des pays, il mobilise tout, il invente beaucoup de mots. Et il invente ce mot qui est extraordinaire, qui s'appelle fracaso mania. En espagnol, fracaso, c'est un échec. Et mania, c'est un complexe, une manie au sens médical du terme. Et donc, cette idée que le sentiment d'être inférieur, on disait des pays sous-développés à l'époque, avec l'idée qu'il y avait une seule norme de développement, avait une incidence très forte sur la manière dont ces économies se développaient et ces économies s'articulaient avec les économies du centre, du nord, appelons ça comme on veut. Et donc il a je ne pense pas du tout moi que Exit, Voice and Loyalty soit le plus intéressant de ses ouvrages. C'est intéressant sur la critique de la rationalité économique, la conception étroite de la rationalité économique. Les passions et les intérêts, c'est tout à fait passionnant. Et, sans jeu de mots, il y a toute une série de travaux où il explore, par exemple, cet ouvrage sur 2 siècles de rhétorique réactionnaire, où il essaye de décortiquer, on est à l'époque de Reagan, il essaye de décortiquer la manière dont le discours politique se saisit de propositions économiques et donc le discours qui rejette un certain nombre de mesures progressistes va les traiter soit de mesures inutiles, inanity, soit de mesures qui vont conduire à une catastrophe, jeopardy, soit de mesures perverses, c'est-à-dire qui vont produire l'effet inverse de ce qu'elles voudraient. Et tout cela est encore tout à fait présent sur la scène géopolitique actuelle. Donc il y a chez Hirschman une ouverture, pas seulement à d'autres disciplines, mais une ouverture au langage. On revient à ces catégorisations par une sorte de tournant linguistique. On a beaucoup parlé du tournant empirique de la discipline. Il y a aussi un tournant rhétorique dont McCloskey a été la première à parler, mais qui est repris beaucoup par Hirschman. Et il y a une analyse des modèles, des traveling models, des modèles qui voyagent entre le Nord et le Sud. Il y a une analyse de ce qu'il appelle les économistes visitants, le syndrome des économistes visitants, visiteurs, visiting economist syndrome. Et il y a des réflexions comme ça, beaucoup plus larges. C'est-à-dire que le cadre qu'il propose, tout en restant économiste, et il dit qu'il est évidemment un peu institutionnaliste, mais qu'il reste économiste, qu'il aime la théorisation, qu'il croit dans la puissance des modèles, des statistiques et des données, mais le cadre est un cadre très ouvert.
Et de fait, ce n'est pas un hasard si on parle d'Hirschman aujourd'hui, c'est aussi parce que vous aussi, Anicott, vous avez beaucoup étudié l'économie du développement, probablement dans les pas d'Hirschman, mais j'imagine qu'il y a une filiation quasi directe. Il y a aussi quelque chose de très important chez Hirschman, c'est la transmission. Il estimait qu'à partir du moment où on estime que l'économie est une puissance politique, il s'agissait de savoir la transmettre, et la transmettre, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous faites, Anicott, en étant professeur émérite à Paris 1 Panthéon Sorbonne, et en encadrant un très grand nombre, et en ayant encadré un très grand nombre de thèses. Merci infiniment, Anicott, d'avoir participé à cette émission et de nous avoir fait comprendre tout l'intérêt de l'histoire de la pensée économique.